Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. C'est encore une grâce du Seigneur qui nous donne la vie ce matin pour que nous puissions l'adorer, nous pencher ensemble sur sa parole comme nous le faisons chaque jour, mais nous le faisons ce matin ensemble comme la famille de Dieu. Pierre a prié et nous sommes, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le chapitre 4 de Daniel. Daniel chapitre 4, et nous lisons ce merveilleux chapitre, verset 1. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, les oiseaux du milieu de ses branches. » Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne sans l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches desquelles les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Quelle belle confession de foi, n'est-ce pas? Ce n'était pas gagné. Après tout ce que nous avons vu déjà, ce n'était pas gagné. Et j'ai intitulé ce temps de prédication « Un homme transformé ». Un homme transformé. Et le chapitre 4 est une sorte de témoignage. C'est le témoignage du roi Nebuchadnezzar où il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Les trois premiers versets et les derniers versets que nous avons lus nous montrent que Dieu a profondément changé la vie de Nebuchadnezzar. Il a œuvré dans sa vie, il l'a transformé complètement. Qu'avons-nous appris jusqu'à présent au sujet de Nebuchadnezzar? Au chapitre 1, nous observons la politique d'assimilation des Hébreux exilés à Babylone pour leur confier ensuite des postes de responsabilité dans son royaume. Alors, je lis chapitre 1, on va faire un petit retour en arrière et vous pourrez suivre avec moi. Chapitre 1, versets 3 à 7. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Voilà, les noms d'origine, donc, ces 4 jeunes gens sont soumis à une rééducation païenne intensive. Les noms d'origine hébreu, ceux qui se terminent par elle, par exemple, Elle, c'est l'un des noms de Dieu. Daniel, Michaël, sont remplacés par des noms qui évoquent des divinités païennes. Daniel sera appelé désormais Belshazzar et Michaël sera appelé Meshach. Il en est de même des deux autres pour qui le nom se termine par Yah, qui rappelle le nom de Yahvé. Et c'est ainsi que le nom d'Anania et d'Azaria seront transformés en Shadrach et Abednego, noms qui rappellent des divinités païennes. Ces quatre adolescents, arrachés de force de leur patrie, ayant parcouru de nombreux kilomètres dans des conditions difficiles, qui ont vu tout le peuple exilé à Babylone et la ville mise en point, vont-ils rester fidèles à leur Dieu malgré toutes leurs épreuves? Oui, nous apprend le chapitre 1, puisqu'au verset 8, nous lisons Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et nous voyons que Dieu va honorer ceux qui l'honorent. Et nous lisons, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et plus tard, après ce régime de légumes et d'eau, eh bien Daniel et ses compagnons ont meilleur aspect que tous les autres. Et Dieu donc accorde, au verset 17, nous lisons, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et au verset 19, nous voyons l'attitude du roi face à ces quatre jeunes gens, au verset 19 du chapitre 1. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels, le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. C'est la première rencontre avec ces quatre adolescents. C'est la première rencontre de Nebuchadnezzar avec les quatre Hébreux. Et il les trouve plus sages et plus intelligents que ses conseillers. De surcroît, ce sont quatre jeunes qui craignent l'Éternel. Ce sont vraiment des personnes exceptionnelles. Et certainement, ils ont fait une forte impression sur l'esprit du roi. Mais être en contact avec des convertis ne fait pas de nous forcément un converti. Être en contact avec des croyants affermis ne convertit pas le roi, comme le prouve le chapitre 2, et nous avançons dans la vie du roi Nebuchadnezzar. Au chapitre 2, on le trouve troublé par un songe. Il convoque tous les spécialistes du royaume et ceux-ci ne peuvent ni lui dire quel est le contenu du songe, ni lui expliquer le songe. Et donc, au verset 12, nous lisons qu'il est troublé et qu'il se met en colère, chapitre 2. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Est-ce l'attitude de quelqu'un qui est converti? Pas du tout. Manifestement, le roi est toujours aussi païen. Et en réponse à la prière de Daniel et de ses compagnons, Dieu va révéler le contenu du songe et va donner à Daniel la capacité d'expliquer le songe au roi Nebuchadnezzar. Et Daniel interprète le songe à Nebuchadnezzar, il attribue tout le mérite à Dieu. Et au verset 17 du chapitre 2, on voit que le roi fait cette confession, donc chapitre 17, verset 2, votre Dieu, plutôt le 20, pardon, 47, le roi, chapitre 2, verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Nebuchadnezzar confesse que l'Éternel est Dieu, qu'il est plus grand que tous les dieux, mais Nebuchadnezzar ne reconnaît pas encore que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et nous poursuivons au chapitre 3, on voit que Nebuchadnezzar, verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. et qu'il va imposer aux hommes de se prosterner devant cette statue et de l'adorer. Alors, on dit, mais qu'est devenu la conviction de Nebuchadnezzar quand il a dit au verset 47 du chapitre 2, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir son secret. » Comment est-ce qu'il peut imposer aux gens de s'incliner et d'adorer une statue lorsqu'il a fait cette confession de foi, enfin cette confession, c'est pas encore une confession de foi, mais cette confession au verset 47 du chapitre 3, du chapitre 2, pardon. Manifestement, les actes de Nebuchadnezzar contredisent les paroles qu'il vient tout juste de prononcer au verset 47 du chapitre 2. Donc son cœur n'est pas encore transformé. Et on le voit plus loin, dans sa fureur, parce que les trois compagnons de Daniel ne sont pas inclinés devant la statue, il va leur demander de se reprendre, de se ressaisir et de s'exécuter dès qu'ils vont entendre le bruit de la musique. Et les compagnons de Daniel vont dire non, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Encore une fois, Nebuchadnezzar est rempli de colère, il fait chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'accoutumée, mais, qu'est-ce qui se passe? Dieu délivre ces 3 Hébreux de la fournaise. Et le roi peut même voir 4 personnes qui marchent, sans lien aucun, tranquillement dans la fournaise, et il reconnaît que l'un des deux a la figure des dieux. Voilà. Et alors, plus loin, verset 25, Nebuchadnezzar va encore faire cette confession. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un dieu des dieux. » Et encore plus loin, au verset 28, des versets 28 à 29, il va dire, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Maintenant, l'ordre que je donne, l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. » Voilà. Nebuchadnezzar a déjà reconnu jusque-là que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Il le répète encore ici. Il ne connaît aucun dieu qui peut délivrer comme le peut le faire le dieu de Daniel et de ses compagnons. On le sent à 2 doigts de confesser qu'il n'y a pas d'autre dieu. Mais dans le texte du chapitre 3, rien ne laisse supposer qu'il en est ainsi. Rien n'indique que Nebuchadnezzar soit prêt, à la fin du chapitre 3, à se prosterner devant Dieu pour le louer. Au fond, son cœur n'a toujours pas changé lorsque nous sommes au chapitre 3. Il demeure aussi rebelle qu'avant. Et alors Dieu va devoir agir une fois de plus, et cela par un songe, pour amener le roi Nebuchadnezzar à lui. Et nous lisons ces versets 1 jusqu'à 3. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Et c'est ce verset 2 qui est extraordinaire, comme le verset 3. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Bien sûr, il semble évident que ces propos sont dits après avoir expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie, après qu'il ait perdu la raison et qu'il soit venu louer le Seigneur. On voit cela aussi. Alors quand on lit, quand on regarde dans l'hébreu, le texte hébreu, les mots hébreux, signe, quand on parle de signe, on parle d'un événement miraculeux, pas d'un petit signe, mais d'un événement miraculeux qui a des conséquences importantes. De même, quand on parle prodige, l'hébreu évoque un sentiment qui a des conséquences merveilleuses. Et le roi dit en substance, mais vraiment, Dieu a agi dans ma vie miraculeusement, et cela a des conséquences merveilleuses. Alors, on le voit célébrer au verset 3, la grandeur de Dieu, que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. On voit qu'un changement s'est réellement produit dans le roi quand on considère les versets 34 du chapitre 4. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Voilà. On voit là, plus on avance dans la fin du texte, on voit que la foi de Nebuchadnezzar est réelle. Parce qu'au verset 35, quand il dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu ?» C'est une belle déclaration de la souveraineté de Dieu. Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre et qui fait comme il veut. Et ce n'est pas tout. On voit au dernier verset une confession de foi personnelle, verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Alors, on se dit, mais c'est le même qui avait au chapitre 1, 2 et 3, c'est pas le même. Effectivement, ce n'est pas le même, parce que Dieu agit puissamment dans sa vie. Il reconnaît, on le voit au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, plongé dans l'adoration, prosterné devant Dieu, un Dieu dont il reconnaît la vérité, toutes ses œuvres sont vraies, il reconnaît la justice de Dieu, toutes ses voies sont justes. Son adoration témoigne de son émerveillement et de son humilité. Sa foi est réelle. Sa connaissance n'est peut-être pas encore très étendue, mais elle est authentique. Le roi est un homme différent. C'est un homme transformé. Il est converti et cette conversion est l'œuvre de Dieu. Alors regardons un peu cette conversion dans notre chapitre 4. Et nous allons au verset 4. Nous retournons au verset 4. Où Nebuchadnezzar dit « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. » Alors, et ensuite au verset 5, il dit « J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées que dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Et les versets 6, il nous semble, 6 et 7, il nous semble revivre quelque chose que nous avons déjà vécu. Parce qu'il fait appel au même spécialiste, rappelez-vous, qui était incapable de lui dire le songe qu'il avait eu, qui était incapable de donner l'explication. Mais on dit, mais pourquoi il les appelle? Il aurait pu appeler Daniel directement. Il sait que c'est lui qui peut vraiment interpréter les songes. Eh bien, il est possible que le roi se doute de l'explication de son rêve, en fait. Et qu'il aimerait bien se tromper. Il aimerait entendre autre chose, des choses agréables, et non pas la vérité. Et on sait que dans la littérature babylonienne, les rois étaient comparés à un arbre. Un roi était comparé à un arbre. Donc le roi Nebuchadnezzar, c'est donc que l'arbre du rêve, c'est lui. Et quand il voit l'arbre abattu, scié, coupé, lié de chaînes, et isolé et livré à la rosée, il se doute bien qu'il s'est passé quelque chose de terrible, qu'il va se passer quelque chose de terrible dans sa vie. Il se doute bien qu'il va être abaissé, humilié. Et le verset 13 et 17 nous ajoute une information. Quand on regarde les versets 13 et 17 du chapitre 4, dans la vision qui se présenta à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Et au verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qui qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Il se rend compte que ça vient d'en haut. C'est pas les hommes qui vont si là, c'est ça vient d'en haut, le décret vient d'en haut. Donc il se rend bien compte que Dieu lui-même va intervenir dans cette affaire-là. Et il a déjà vu la puissance de Dieu en voyant comment il a garné Daniel et ses compagnons, en voyant comment il a donné à Daniel cette capacité d'expliquer les songes, en voyant comment Dieu a délivré Meshach, Shadrach et Abednego de la fournaise. Il connaît la puissance de Dieu. Et en sachant aussi que Dieu lui a donné le pouvoir. Donc, il veut pas entendre la vérité. Il dit, je me suis peut-être trompé. Donc, il va convoquer tous les interprètes païens dans l'espoir qu'ils vont lui donner une autre explication. Et que ça va tranquilliser son esprit. Une explication différente de celle qui sait déjà être vraie. Mais, malheureusement, comme ce qui s'est passé avant, ces spécialistes de la cour ne sont pas capables d'interpréter le rêve. Donc, contraint et forcé, le roi va faire appel à Daniel pour expliquer son rêve. Il va entendre de la bouche de l'homme de Dieu la vérité à laquelle il voulait échapper. Et les versets 10 à 16 nous relatent le rêve du roi. Donc, on peut couper ça en deux parties. Versets 10 à 12 nous fait une description d'un arbre qui est magnifique, et des versets 13 à 16, il nous dit qu'est-ce qui va arriver à cet arbre magnifique. Donc, il y a donc un arbre majestueux qui occupe tout l'espace. Au verset 10, il nous dit, je regardais, voici la vision de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Il est au milieu de la terre. Et cet arbre semble toucher le ciel. Verset 11, cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. De partout, on peut le voir, tellement il est imposant. On peut le voir de très loin. On voit ensuite que cet arbre joue un rôle important. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il est vigoureux, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Voilà. La vision, Daniel va lui expliquer, mais c'est toi à qui Dieu a donné le pouvoir. Il faut savoir que Nebuchadnezzar, c'est le roi du monde à ce moment-là. Et donc la description est authentique. Et tout à coup, cet arbre va être... Il y a un ordre qui vient d'en haut pour que cet arbre soit abattu. Et il y avait des oiseaux et toutes sortes de vie autour de lui. Il va être abandonné, laissé tout seul. Et ce qui reste de lui va être lié avec des chaînes de fer et d'airain et abandonné là à la rosée pendant 7 ans. Abondamment trempé par la rosée, verset 15, et ça va durer 7 ans, verset 16. Pourquoi Dieu agit ainsi avec cet arbre? D'ailleurs, on dit que son cœur de l'homme va lui être ôté, on va lui donner un cœur de bête. Pourquoi Dieu agit avec cet arbre ainsi? Eh ben, c'est pour l'humilier. Verset 17, verset 25, qui est repris aussi au verset 32, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Voilà. Nebuchadnezzar, qui est le grand roi du monde, doit apprendre à s'abaisser. On voit aussi, les versets 28 à 30, dans quelles circonstances cela va se faire et de quelle manière va se réaliser le rêve. Donc, verset 28, on fait un saut, je veux dire. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Donc, Daniel lui a donné l'explication que nous avons lue. Le roi est donc l'arbre. Alors, au bout de 12 mois, comme il se promenait, je suis au verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Voilà un roi, qui est fier de tout ce qu'il a accompli. Fier. Et c'est à ce moment-là que Dieu va l'humilier. Et l'histoire nous apprend effectivement que Nebuchadnezzar est un grand bâtisseur, qu'il a fait de très très grandes choses. Il a fait construire des temples impressionnants, à peu près dans tout le royaume, et que dans la capitale, il y avait des bâtiments administratifs d'une splendeur inimaginable. Rappelez-vous, les jardins suspendus de Babylone, c'est lui. C'est lui. Une des 7 merveilles du monde. Alors, Nebuchadnezzar fixe tout ce qui est réalisé, il dit, ça c'est moi qui ai fait tout ça. Ne suis-je pas le plus grand? Et là, Dieu va humilier un roi rempli d'orgueil. Et vous savez, frères et sœurs, que c'est aussi ainsi que Dieu agit quand il veut convertir quelqu'un. Si on veut s'approcher du Très-Haut, il faut descendre. On ne s'élève pas. Voilà. Et donc, on le voit, qui est chassé, dans un instant, celui qui était le plus fort, à qui personne ne résistait, qui avait la vie et la mort dans sa main, qui était en train de se glorifier, verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera, verset 32, du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, et nous voyons qu'il est descendu bien bas. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Oh là là. Celui qui était brillant a baissé plus bas que terre. Et finalement, verset 34, après le temps marqué, 7 ans, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Voilà, Dieu a accompli un prodige dans la vie de Nebuchadnezzar. Il a humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est le Dieu Très-Haut. Il l'a humilié, il l'a mis plus bas que terre, et on voit que cet homme n'a rien à voir avec celui du chapitre 1, 2 et 3. Dieu, donc, doit nous plonger dans l'humiliation, dans l'abaissement, pour nous convertir. C'est le moyen qu'il utilise. Vous avez vu cet homme qui se glorifiait, et qui devient, il se glorifiait de tout ce qu'il avait fait, de sa réussite, conscient de toutes les constructions qu'il avait faites, et une heure plus tard, on le voit comme les animaux en train de manger de l'herbe. 7 ans vont s'écouler. Ça va durer longtemps. Il va rester dans cette situation longtemps, longtemps, longtemps. Il va manger de l'herbe. Il va être arrosé. Ses ongles et ses cheveux vont pousser. On ne dirait plus un homme. Voilà. Mais il va apprendre. Il va comprendre que l'Éternel est le seul Dieu et qu'il est le roi des cieux. Et il ne va plus vivre comme avant. Et donc, il vivra vraiment comme un enfant de Dieu. C'est ainsi que se produit la conversion de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui l'accomplit. Il ne fait pas en élevant Nebuchadnezzar, mais en l'abaissant. Et donc, nous devons apprendre 2 leçons de ce récit. Premièrement, que on ne doit pas désespérer de la conversion de quiconque. Regardez cet homme, qui aurait dit qu'il se serait converti? Il avait déporté tout un peuple en captivité. Il avait cherché à entraîner dans l'idolâtrie Daniel et ses compagnons, et le voici aujourd'hui enfant de Dieu. Mais ce qui n'est pas possible à l'homme, et rien n'est impossible à Dieu. Qui aurait pensé que cet homme qui, dans une rage aveugle, voulait faire tuer tous les sages de Babylone, serait un jour un enfant de Dieu? Qui aurait pensé que celui qui demandait qu'on adore la statue d'or serait aujourd'hui un adorateur de Dieu? Qui aurait pensé que celui qui voulait jeter dans la fournaise les compagnons de Daniel, parce qu'ils étaient fidèles à Dieu, serait devenu lui-même fidèle à Dieu. La chose semblait impossible à l'homme. Ça, c'est impossible à la raison. Or, au chapitre 4, on le voit s'incliner et louer Dieu comme un enfant, l'adorer, l'exalter, comme étant le roi des rois, et lui rendre honneur. Donc, nous ne devons pas désespérer dans l'évangélisation, nous ne devons pas désespérer de la conversion de quiconque, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce que nous ne pouvons pas, Dieu peut le faire. Et nous devons, comme nous allons distribuer les traités ou parler du Seigneur, avoir l'assurance que Dieu peut sauver le plus vil des pécheurs. Et justement, c'est pour ça qu'il est venu. Et il nous en donne l'expérience avec Nebuchadnezzar. Personne n'aurait pensé qu'il serait converti. Nous ne pouvons pas, mais Dieu peut le faire. Nous voyons, alors peut-être que vous êtes aujourd'hui, là ce matin, peut-être que vous avez une connaissance de la parole de Dieu, comme Nebuchadnezzar l'avait, mais vous n'êtes pas encore sauvé. Et pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est parce que vous avez, comme Nebuchadnezzar, peut-être une trop haute opinion de vous-même. Vous n'êtes pas encore descendu assez bas. Vous avez trop le sentiment de votre importance, et cela vous empêche de venir au Seigneur Jésus comme un mendiant, comme un enfant. Il faut que vous veniez à lui tel que vous êtes, comme un enfant. Et il faut même qu'on perde la face pour venir à Dieu. Et tous ceux qui viennent à Dieu viennent de la même manière, en s'humiliant. Rappelez-vous le publicain, dans Luc chapitre 18, verset 13, on peut juste prendre la référence pour voir quelques exemples de personnes. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 13. On peut commencer au verset 9. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour des bien portants, mais qu'il est venu pour des malades, pour des pécheurs. On voit aussi Saul de Sarse dans Actes, chapitre 9, sur le chemin de Damas, qui doit aussi s'humilier devant le Seigneur. Actes chapitre 9, verset 6. Vous connaissez l'histoire. Il tombe par terre au verset 4, il y a une lumière et le Seigneur dit « Pourquoi me persécuter ?» Au verset 9, il dit, on le voit, au verset 6, pardon, on voit l'état de Saul tremblant et saisi des fois. Il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voilà. Et le Seigneur dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le Seigneur l'a aussi abaissé. Paul, qui se croyait grand, puissant, il l'a abaissé pour qu'il lève les yeux vers Dieu. Si vous pensez être plus haut que Dieu, vous n'avez pas à lever les yeux vers lui. Mais si vous êtes par terre, eh bien, il n'y a plus qu'une seule direction. Ah, regardez, c'est en haut. Et Dieu doit nous mettre par terre pour qu'on regarde là-haut. Et vous avez aussi le geôlier de Philippe dans Actes chapitre 16, qui lui tombe à genoux en demandant « Que faut-il que je fasse ?» Et on lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta femme. » Voilà. Donc on ne peut venir au Dieu très haut qu'en descendant très bas. Et donc, c'est ainsi que Jésus est venu appeler les hommes. Il est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs. Marc chapitre 2, verset 17. Alors, on pourrait se dire, eh bien, voilà, comme Nebuchadnezzar, j'ai tout mon temps pour vivre la vie. Les choses de Dieu vont passer après. Je vais penser à ça plus tard. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que Dieu a été... On a vu que Nebuchadnezzar a tardé. Il est devenu fou, comme les animaux. Dans sa grâce, Dieu l'a relevé parce qu'il s'est humilié. Mais si vous ne vous humiliez pas, Dieu peut faire des choses. Il se peut que vous ne saisissiez pas du tout à la fin, qu'il soit trop tard. Parce que vous ne comprendriez même plus l'évangile tellement vous vous êtes endurci, comme Pharaon, à attendre à repousser ce jour-là. Peut-être que la mort peut vous saisir avant que vous soyez mis en règle avec Dieu, avant que vous soyez venu à lui. Donc la parole dit, aujourd'hui c'est jour de grâce, de ne pas attendre demain. Alors ne craignez pas d'être brisé par Dieu. Ne craignez pas de vous laisser non plus diriger par lui, parce que Nebuchadnezzar lui-même confesse que toutes ses voies sont vraies, toutes ses voies sont justes, verset 37. Alors que nous terminons ce chapitre 4, ne voulez-vous pas vous rappeler la grandeur de Dieu et reconnaître votre petitesse? Dieu ne va pas rejeter celui qui vient à lui les mains vides. C'est ainsi qu'il nous veut venir à lui. Il ne s'attend pas à ce que vous meniez une vie parfaite pour venir à lui. Jésus-Christ a déjà mené cette vie parfaite pour que vous puissiez venir à Dieu tel que vous êtes et que lui puisse vous remplir. Et regardez ce que dit Nebuchadnezzar. On revient au chapitre 4, Regardez ce qu'il dit à la fin. Regardez ça. Entendez sa confession maintenant. Daniel chapitre 4 verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Est-ce que vous ne voulez pas mettre votre nom là à la place et dire moi maintenant Paul, moi maintenant Eric, moi maintenant Joseph, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux. Alors venez à Christ tel que vous êtes, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et j'aimerais prendre une dernière référence dans 1 Timothée. Chapitre 15. On peut commencer au chapitre 12. 1 Timothée 1:12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.